Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du vendredi 17 mai 2024 dont voici d'abord les principaux titres. Les États-Unis comptent sur l'Angola pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. L'état de siège à Nitori maintient justifié face aux menaces de violences armées, selon le gouverneur militaire de cette province.
Mais étant donné ce qui se passe au Nord Kivu, je ne pense pas qu'il soit prudent vraiment d'abandonner la province de Nitori, parce que effectivement, le M23, il est en train de recruter ici à Nitori, ici, pas pour rire en tout cas.
Le président tunisien défend les arrestations d'avocats et de journalistes contre les critiques occidentales. Un projet de mariage de masse soutenu par un élu local au Nigeria a été annulé. Pénurie d'eau cyclique au Gabon, inquiétude croissante malgré les assurances du gouvernement.
Par année, nous avons 2 700 000 francs pour de l'eau seulement. Et ce qui s'ajoute comme des imprévus sur le budget de l'établissement, il tombe de plus chez nous, presque 2 fois ou 3 fois par semaine, mais nous n'avons pas de l'eau dans nos robinets.
Le Sénat nigérian approuve la peine de mort pour les trafiquants de drogue face à une augmentation du trafic et de la consommation. Les parents haïtiens reçoivent une formation pour soutenir leurs enfants face à la violence des gangs. Les États-Unis achèvent une jetée provisoire pour acheminer l'aide à Gaza. N'en manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les États-Unis espèrent que l'Angola contribuera à apaiser les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a déclaré hier la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines devant le Congrès, Eddie Isango.
Molefi a expliqué aux membres du Congrès américain que le président angolais João Lourenço travaille à mettre ensemble ses homologues congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame et faire respecter la feuille de route que Washington et les leaders de la région concernée ont aidé à élaborer. Elle a rappelé que les États-Unis se sont engagés à essayer de réduire la tragédie dans l'est de la RDC où des bombes ont tué plus de 35 personnes dans un camp de déplacés il y a près de 2 semaines. Washington a blâmé le Rwanda pour l'attaque. Les autorités rwandaises ont démenti et pointé du doigt l'armée congolaise et ses supplétifs des miliciens Wazalendo. En mars, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont séparément accepté de se rencontrer dans les jours qui viennent. Kinshasa accuse le Rwanda de faire la guerre sur le sol congolais derrière les rebelles du M23. Kigali, de son côté, accuse la RDC de soutenir les FDLR, rebelles rwandais présentés comme faisant partie des responsable du génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes au Rwanda en 1994.
Au Tchad, le Premier ministre Succès Mastra a joué l'apaisement en admettant qu'il n'y avait plus aucun recours juridique et a appelé ses partisans à poursuivre pacifiquement le combat politique. Cette réaction intervient après la validation et la proclamation officielle de la victoire du général Mahamat Idriss Déby Itno par le Conseil constitutionnel comme président élu du Tchad. Son parti, les Transformateurs, avait qualifié le scrutin de mascarade et Mastra avait introduit un recours en annulation devant le Conseil constitutionnel qu'il a rejeté jeudi. Les États-Unis saluent la participation des électeurs lors de cette présidentielle au Tchad et le caractère pacifique du scrutin, tout en exprimant des inquiétudes concernant la disqualification de certains candidats sans possibilité de recours et l'exclusion de nombreux jeunes électeurs de la liste électorale. De plus, la limitation de l'observation de la société civile et des partis d'opposition nuit à la transparence, indique un communiqué du département d'État. Bien que des progrès aient été réalisés, notamment dans le dialogue national et le référendum constitutionnel, l'exclusion dans la mise en place des institutions électorales soulève des préoccupations sur la légitimité du processus démocratique. Enfin, Washington encourage les autorités tchadiennes à travailler avec toutes les parties prenantes pour garantir la transparence et l'inclusivité des futures élections. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'en est pris jeudi devant des centaines d'étudiants à l'attitude de Paris lors de la répression contre son camp sous l'ancien président Macky Sall, accusant la présidence Macron d'avoir indirectement incité à la persécution. Beaucoup de gouvernements européens sont restés dans un mutisme approbateur, a-t-il dit, Monsieur Sonko a précisé s'exprimer en tant que chef de parti PASTEF et non du gouvernement à l'occasion d'une conférence sur les relations entre l'Afrique et l'Europe avec l'opposant de gauche radicale française Jean-Luc Mélenchon. Sonko a assuré que ses positions n'ont changé pas avec l'accession au pouvoir, mais cette accession nous amènera à collaborer avec tous les gouvernements, y compris l'État français et le gouvernement de M. Emmanuel Macron, a-t-il ajouté. Un mariage collectif de 100 orphelins parrainé par un responsable local au Nigeria a été annulé. Cette démarche avait alimenté un débat national sur les normes culturelles et religieuses. Mohamedou Oumfa.
Abdul Malik Sarkinadji, porte-parole de l'Assemblée locale de l'État du Niger, avait prévu d'organiser fin mai le mariage d'orphelins ayant perdu des membres de leur famille lors d'attaques armées avant de faire marche arrière mardi face aux critiques. Le projet annoncé la semaine dernière s'est heurté à la résistance de la ministre de la Condition féminine et d'autres fonctionnaires disant craindre que certaines des participantes au mariage soient mineures ou utilisées à des fins lucratives. La ministre a demandé une enquête sur l'âge, le consentement au mariage et l'identité des participants. Peu après les remarques de la ministre, Abdul Malik Sarkinadji a déclaré à la presse qu'il faisait marche arrière et laissait les familles décider de la tenue ou non du mariage de ces jeunes. Il a toutefois critiqué la ministre de la Condition féminine, affirmant que n'étant pas originaire du nord du Nigeria, elle ne comprenait pas les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de cette région. Les mariages de masse sont communs au Nigeria, en particulier dans le nord conservateur du pays, majoritairement musulman, pour aider les plus pauvres à s'unir. Monsieur Sarkinadji a d'ailleurs reçu le soutien de l'Organisation des imams du Nigeria et d'autres groupes musulmans qui ont accusé la ministre d'avoir outrepassé ses fonctions et ont demandé sa suspension.
Le président tunisien Kais Saied a réagi vivement aux critiques occidentales contre l'arrestation d'avocats et de figures des médias, n'est-ce pas Jacques Aristide?
Sur un ton véhément, le chef de l'État tunisien a défendu dans une vidéo la légalité de ces mesures qui marquent, d'après ses détracteurs, un nouveau recul des libertés dans le berceau du printemps arabe. Kais Saied, qui s'est arrogé tous les pouvoirs, a dit avoir ordonné au ministère des Affaires étrangères de convoquer dès que possible les ambassadeurs d'un certain nombre de pays étrangers pour leur transmettre sa vive protestation contre une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures de son pays. L'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude et préoccupation face à une vague d'interpellations d'avocats, de chroniqueurs à la radio et télévision et de militants associatifs. Hier, des centaines d'avocats et défenseurs des droits humains ont manifesté à Tunis en signe de protestation et pour réclamer le respect des droits et libertés dans le pays. « Liberté, l'État policier, c'est du passé », ont-ils scandé, en référence à la révolution de 2011 qui a renversé le dictateur Ben Ali. L'ONG Amnesty International réclame une enquête après des accusations de torture sur un avocat, Mehdi Zagrouba, qui, selon ses confrères, a été hospitalisé en urgence après avoir été frappé en détention.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont annoncé hier avoir finalisé la construction d'une jetée temporaire le long de la côte de Gaza. Cette infrastructure vise à faciliter la livraison de davantage d'aide dans ce territoire dévasté par 7 mois de guerre, dont les principaux points d'entrée sont bloqués depuis plus d'une semaine. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Des militaires américains soutenant la mission humanitaire de livraison d'aide supplémentaire aux civils palestiniens dans le besoin ont arrimé la jetée temporaire à la plage de Gaza. C'est ce qu'a indiqué sur X le commandement militaire des États-Unis pour le Moyen-Orient, ajoutant qu'il est prévu que des camions chargés d'aide humanitaire commencent à accoster dans les prochains jours. Le commandement précise que l'aide sera remise à l'ONU, qui coordonnera sa distribution dans Gaza. L'ONU dit préférer la voie terrestre, estimant que l'aide humanitaire ne peut pas et ne devrait pas dépendre d'une jetée flottante loin de là où les besoins sont les plus aigus. CENTCOM a annoncé l'arrivée d'environ 500 tonnes d'aide dans les prochains jours. Ce projet de jetée, d'un coût annoncé de 320 millions de dollars selon le Pentagone, a été annoncé en mars par le président Joe Biden pour pallier aux restrictions imposées par Israël à l'acheminement terrestre de l'aide vers la bande de Gaza.
Israël va répondre ce vendredi devant la plus haute juridiction de l'ONU aux allégations de l'Afrique du Sud selon lesquelles Tel Aviv aurait intensifié une campagne génocidaire avec son opération militaire à Rafah. Pretoria a demandé à la Cour internationale de justice qui siège à La Haye d'enjoindre à Israël de cesser son incursion à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, essentielle selon Israël, pour éliminer les militants du Hamas. Israël a précédemment souligné son engagement inébranlable envers le droit international et qualifié l'affaire de l'Afrique du Sud de totalement infondée et moralement répugnante. Les dirigeants arabes ont appelé jeudi à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et à la fin du déplacement forcé des Palestiniens à l'issue d'un sommet à Bahreïn. Les dirigeants arabes ont dit souhaiter le déploiement de casquets bleus dans les territoires palestiniens occupés par Israël jusqu'à la mise en œuvre de la solution de deux États, israéliens et palestiniens, pour régler le conflit vieux de plusieurs décennies. Les États-Unis ont estimé qu'une force de l'ONU pourrait compromettre les efforts d'Israël de vaincre le Hamas sans toutefois s'y opposer. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'est forcé cette semaine de remobiliser l'électorat décisif des Africains-Américains. Le président américain multiplie ainsi les hommages aux grandes luttes menées par les droits civiques aux États-Unis. Hier, il a reçu les familles des plaignants d'un combat judiciaire emblématique contre la ségrégation scolaire. Ce vendredi, Joe Biden ira prononcer un discours au Musée national de l'histoire et de la culture africaine-américaine à Washington, puis il rencontrera les représentants des Divine Nine, des fraternités et sororités, associations typiques des universités américaines fondées par des étudiants et des étudiantes noires. La Maison-Blanche a d'ailleurs annoncé jeudi avoir investi au total de 16 milliards de dollars dans la centaine d'universités historiquement noires du pays depuis l'élection de Joe Biden. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par John Linden.
Le Cameroun va contracter un crédit auprès de la Banque islamique de développement d'un montant d'un peu plus de 122 millions d'euros, soit plus de 80 milliards de francs CFA. Ce prêt est, selon le site ecomatin.net, destiné au financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Ce montant s'ajoute aux 178 milliards de francs CFA octroyés par la Banque mondiale en décembre dernier et à la participation du Cameroun qui s'élève à un peu plus de 56 milliards de francs CFA. Prévu pour entrer en production en août 2024, la première mine de lithium du Mali devrait rapporter plus de 100 milliards de francs CFA à l'État par an. C'est l'annonce faite cette semaine par le gouvernement. Selon l'agence Ecofin, avec le projet Goulamina, le Mali devrait devenir en 2024 le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest. La mine sera exploitée par le chinois Ganfeng Lithium avec une participation de 35% pour l'État malien et les investisseurs locaux. Des associations européennes de consommateurs ont annoncé jeudi avoir déposé une plainte contre la plateforme chinoise de commerce en ligne Temu. Temu, qui compte plus de 75 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, est accusé de manipuler les internautes et de violer plusieurs dispositions du règlement de l'Union européenne.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Victor Boniface, élu meilleur rookie de la Bundesliga.
Oui, l'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen a été élu meilleur recrue dans le championnat allemand. Victor Boniface a reçu le trophée de meilleur joueur des matchs de Bundesliga à 4 reprises durant la saison août, septembre, octobre et novembre. Il est arrivé en Allemagne en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Le Nigérian a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives lors de ses 12 premiers matchs du championnat. En janvier, une blessure l'a contraint à manquer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, le joueur de 23 ans a marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives en 21 rencontres de Bundesliga.
Demain, Yakuba se joue la finale aller de la Ligue des Champions CAF.
L'Espérance de Tunis reçoit à la Ligue d'Égypte. Les Tunisiens cherchent à profiter de l'avantage du terrain face à la redoutable équipe d'Alali. Cette double confrontation met aux prises les deux équipes ayant le plus de participation à la finale de la Ligue des Champions. 8e finale pour l'Espérance de Tunis et 14e pour Alali, qui a pris part à 6 des 7 dernières finales de Ligue des Champions, remportant 3 d'entre elles. Le club égyptien est le plus titré de la compétition avec 10 trophées remportés. Alali est invaincu lors de ses 18 derniers matchs de Ligue des Champions. 12 victoires, 6 nuls, la plus longue série d'invincibilité de l'histoire de la compétition.
Et la FIFA envisage d'autoriser les matchs de championnat à l'étranger.
L'instance dirigeante du football mondial a en effet décidé de créer un groupe de travail de 10 à 15 membres chargé d'examiner l'idée et de formuler des recommandations dans les prochains mois. Le conseil, l'organe décisionnaire de la FIFA, a déclaré que le groupe examinerait 10 aspects relatifs à l'organisation de matchs à l'étranger. Il s'agit des répercussions pour les supporters des équipes susceptibles de jouer à l'étranger, du nombre de matchs autorisés à se dérouler hors du territoire, entre autres. Des compétitions officielles mais secondaires comme la Supercoupe d'Espagne, organisée ces dernières années en Arabie Saoudite, ou le Trophée des champions français, disputé désormais quasiment chaque année à l'étranger, ont déjà sauté le pas. Mais les championnats restent encore sous la coupe du règlement FIFA. Le congrès annuel de la FIFA se tient ce vendredi à Bangkok et l'organisation de la Coupe du monde féminine 2027 y sera octroyée. Le Brésil et un ticket, Allemagne, Belgique, Pays-Bas sont en compétition.
C'était la page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri en RDC évalue l'efficacité de l'état de siège 3 ans après sa mise en place, en réponse aux violences armées menaçant la stabilité du pays. Le lieutenant-général Johnny Luboya a affirmé à la VOA que maintenir l'état de siège était justifié car il a contribué à réduire l'insécurité dans cette région de la RDC. Il s'est exprimé au téléphone de Antoine Roger Bolamba.
C'est vrai que peut-être les gens veulent vraiment la perfection, mais la vérité c'est quoi, monsieur? C'est que quand nous sommes arrivés ici, même dans cette ville de Bounia, une semaine avant, on se promenait avec des têtes de mort. Une semaine avant. Mais aujourd'hui, des pans de territoire où il n'y avait personne. Je vous ai parlé ici de Niakoundé. Vous quittez Bounia ici, vous arrivez à l'entrée du commandant. Il n'y avait pas âme qui vive. Je suis la première personne qui suis descendue là-bas. J'ai trouvé un médecin avec 3 vieilles dames qui ne pouvaient pas marcher et le chef coutumier qui nous attendait. Sur la RN4, donc de commande à Douna, c'était tous les jours des incendies de véhicules. De Iga Barrière à Mongoualou là-bas, les gens ne pouvaient pas circuler. Katanga, de Mbote à Djalassé, il n'y avait personne. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le résultat est néant ou que... Non, mais ça c'est...
Yeah, parce qu'on a dit qu'il y a un peu beaucoup plus de morts que même c'était avant l'état de siège aujourd'hui, est-ce vrai?
Comment il y a plus de morts? Comment il y a plus? Il y a toujours eu des morts. Cette guerre, ça fait combien d'années qu'elle a commencé? Ça fait combien d'années? Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, on veut dire qu'il y a eu plus de morts maintenant. Et évidemment, il y a des tireurs de ficelles parce que, en fait, ils considéraient cette province comme leur bien. Il y avait absence de l'État. Ils ont voulu, n'est-ce pas, ils ont voulu rester dans l'État, dans cet État-là de non-État, excusez-moi la tautologie, mais malheureusement, ils ont beau manipuler, aujourd'hui, il y a un résultat palpable.
Par rapport à l'état de siège, comment est-ce que ça se porte dans votre province? Faudrait-il maintenir l'état de siège ou pas?
Si on se dit que les gens vont se tenir tranquilles, ok, l'état de siège va partir. Mais étant donné ce qui se passe au Nord Kivu, je ne pense pas qu'il soit prudent vraiment d'abandonner la province de l'Ituri. Parce que, effectivement, le M23, il est en train de recruter ici à l'Ituri, ici, pas pour rire en tout cas. Hein, ils veulent aussi créer le désordre ici. Et ça, c'est que nous avons des preuves et tout le monde le sait.
Le lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire de la province de l'Ituri en RDC.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Plusieurs foyers à Libreville au Gabon souffrent actuellement d'une grave pénurie d'eau, un problème récurrent malgré les 9 mois de pluie par an. Les habitants s'inquiètent alors que la crise semble se reproduire à chaque saison sèche, affectant le débit des rivières. Bien que le gouvernement affirme prendre des mesures pour résoudre la situation, les personnes touchées restent anxieuses face à cette problématique de stress hydrique persistante. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
La tension est au maximum dans plusieurs quartiers, foyers et commerces en restriction d'eau depuis plusieurs mois. Justin habite à Kébé Plaine, l'un des rares quartiers de Libreville, à disposer d'une fontaine publique. Mais il faut se lever tôt ici pour être parmi les premiers servis.
Ça fait peut-être une semaine qu'on a positionné. Il y a des jours quand même où l'eau ne vient pas. On a fait déjà 2 jours là. C'est encore aujourd'hui que l'eau est arrivée. Donc on ne sait pas s'il faut augmenter le débit d'eau pour que tout le monde puisse avoir de l'eau, en tout cas tout au long, surtout même la journée.
Une sous-alimentation de la ville aux précieux liquides plus accentués dans des zones périphériques. Le jeune Ganaël, 22 ans, fait chaque jour la boucle du quartier Montalier pour se ravitailler dans cette station de lavage de véhicules.
Même des mamans qui n'ont pas des jeunes enfants comme nous là, qui viennent même avec l'enfant d'eau jusqu'ici là. Et putain, c'est des très longues distances.
Face à cette crise de l'eau, c'est presque tout Libreville et ses 800 000 habitants qui sont dans le désarroi. À Ovindou, une commune urbaine plus proche de la capitale gabonaise, le calvaire des populations est le même. Julie et ses voisins du quartier Igomier se servent d'une eau souterraine pour leurs besoins domestiques.
Nous avons la grâce que ça ne tarit pas. C'est vrai que parfois ça peut diminuer, la pression change, mais sinon c'est le seul point d'eau que nous avons ici.
Touchés par la pénurie d'eau au même titre que les ménages, les écoles privées peinent à garantir l'hygiène des sanitaires et des élèves. Alors, le réflexe, dont l'incertitude du lendemain, est de faire des réserves pour une facture qui crève le budget annuel de l'établissement. Charles Tamoufoumou, Kiben, Chikaya, est directeur d'école.
Par année, nous avons 2 700 000 francs pour de l'eau seulement. Et ce qui s'ajoute comme des imprévus sur le budget de l'établissement, il tombe de plus chez nous presque 2 fois ou 3 fois par semaine, mais nous n'avons pas de l'eau dans nos robinets.
Grâce à un fonds de 42 millions d'euros cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement et la Banque populaire de Chine, le gouvernement a pu mettre sur pied un projet d'amélioration de la desserte en eau du Grand Libreville. Le chantier en cours d'exécution sera livré dans moins de 2 mois, indique le rapport à mi-parcours du projet publié le 16 avril dernier par la Banque africaine de développement. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
Le Sénat du Nigeria a adopté l'utilisation de la peine de mort pour les trafiquants et les importateurs de cocaïne, d'héroïne et d'autres drogues dures en réponse à une augmentation du trafic et de la consommation de drogue dans le géant ouest-africain. Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Si la loi est promulguée par le président Tinubu, la peine de mort s'appliquera désormais aux personnes condamnées pour leur implication dans la production, le transport, la vente et la distribution des drogues au Nigeria. Actuellement, la peine maximale est la réclusion en perpétuité pour ces criminels. Mais les débats pour en arriver là étaient houleux. Le sénateur Aline Doumé, initiateur du projet de loi contre la peine de mort.
I am surprised.
Je suis surpris que la commission recommande une punition plus facile. C'était la peine d'emprisonnement à vie. Nous devrions changer cela à la peine de mort. C'est une pratique partout dans ce pays pour ceux qui sont impliqués dans ce trafic. Donc, quand il s'agit d'étudier cet article point par point, veuillez distinguer, collègues, approuver le changement de la section 11 à la peine de mort.
La nouvelle version adoptée remplace ainsi la peine d'emprisonnement à perpétuité qui était auparavant la peine la plus sévère. Mais certains activistes expriment leurs préoccupations. Djemila Abdul, directrice de ComEd, une initiative des jeunes contre les abus de drogue.
La condamnation à mort est irréversible. Donc si une personne innocente, par exemple, est poursuivie, reconnue coupable et condamnée à mort, et que se passe-t-il après que son innocence est prouvée par la suite? Ce sont donc des questions que nous devons examiner.
Les partisans de la peine de mort ont fait valoir que la menace d'exécution serait plus dissuasive pour les trafiquants de drogue que l'emprisonnement à vie. Les sénateurs opposés à cette mesure ont exprimé leurs inquiétudes quant au caractère irréversible de la peine de mort et à la possibilité de condamnation injustifiée. C'est le cas du sénateur Adams Oshomole du parti au pouvoir APC.
We must be honest, transparent in the decision.
Nous devons être honnêtes et transparents dans notre décision. Je suis responsable devant ma conscience et devant ma communauté. La peine de mort n'est pas l'affaire d'un vote pour ou contre. Tout le monde devait voter pour que nous soyons comptés. Comme ça, ceux qui ont voté pour la mort sont ceux qui votent pour la punition. Non, je ne peux pas. Nous passons au vote.
Certains Nigériens sont aussi inquiets concernant l'application correcte des lois au Nigeria. Abdul Razak, un résident d'Abuja.
Nous espérons que même si nous devrions examiner cette loi, aucun Nigérian ne doit être épargné. Il n'y aura pas de Nigérians considérés intouchables qui doivent être exclus de l'application de la loi. Cela nous amène à un autre point ici. Au Nigeria, nous avons des lois, mais le problème, c'est l'application de ces lois. Oui, il y a des gens qui sont au-dessus des lois dans le pays. Que faisons-nous pour en tenir compte dans ce cas?
Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants, est passé ces dernières années du statut du point de transit de drogue illégale à celui de véritable producteur, consommateur et distributeur. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
En Haïti, les parents sont formés pour soutenir leurs enfants à surmonter les séquelles psychologiques causées par l'impact de la violence des gangs. Des ONG organisent des sessions de formation, de sensibilisation et des discussions sur la santé mentale afin d'aider les parents à rassurer leurs enfants. Davantage avec Blanche Sanon.
Les habitants d'Haïti ont du mal à surmonter le traumatisme de la crise qui a ravagé le pays ces derniers mois. Lors d'une récente séance de formation dans un quartier de Port-au-Prince, les parents ont appris des jeux pour faire sourire leurs enfants. Une initiative née du constat par les spécialistes de la santé mentale de parents désemparés et découragés qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour s'occuper de leurs enfants.
Où vais-je le mettre à l'école? Il y a un problème de sécurité ici. Quand l'enfant va à l'école, on entend des coups de feu, on court avec les enfants à cause de l'insécurité et ça m'empêche de les amener à l'école. De plus, les écoles brûlent et je n'ai aucune possibilité de payer les frais de scolarité.
Yasmine Desroches, psychologue, a souligné à quel point les parents se sentent tellement dépassés et sont déconnectés des besoins de leurs enfants. Il arrive souvent, dit-elle, que les élèves vomissent ou se mouillent lorsque des coups de feu éclatent devant leur école. Yasmine Desroches, en collaboration avec la directrice d'une école, Roselyne Seragui, lui, découvre qu'il n'y a qu'un seul moyen d'essayer de calmer les enfants et d'assurer leur sécurité, les faire s'allonger sur le sol pendant qu'elles chantent doucement.
Je ne leur donne pas la possibilité de s'inquiéter des tirs dans une situation de violence, donc j'occupe et je prends soin de leur temps. Souvent je les emmène au parc, puis nous jouons et parlons ensemble.
La capitale haïtienne est sous les assauts de puissants gangs qui contrôlent 80% de la ville. Aujourd'hui, dans le but d'aider à sauver la plus jeune génération d'Haïti, le pays fait l'objet d'une campagne plus large visant la recherche d'une thérapie. Le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, a déclaré que la violence avait déplacé plus de 360 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants.
Cette violence est traumatisante pour toute une génération d'enfants et de jeunes. C'est pourquoi cette violence doit cesser. C'est pourquoi nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de protection. Et nous devons restaurer un peu d'espoir et de service dans un environnement sûr.
Plus de 80 enfants ont été tués ou blessés en Haïti entre janvier et mars, soit une augmentation de 55% par rapport au dernier trimestre 2023, a déclaré Save the Children, une organisation américaine à but non lucratif.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manila Kiza à son micro. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Restez à l'écoute de nos programmes. Que votre week-end soit aussi détendu que le bouton snooze de votre réveil le lundi matin. Bon courage pour affronter les défis du